Vous écoutez la 1337.
Vous écoutez la 1337. On démarre une nouvelle heure de son.
Il est 18h.
La 1337.
Vous êtes bien dans le 19-20, soyez toutes et tous les bienvenus. Nous sommes le mercredi 6 mars 2023, voici les titres. La dernière rivale de Donald Trump pour l'investiture républicaine, Nikki Haley, a annoncé la suspension de sa campagne après sa défaite lors de nouvelles primaires. Nous irons à Washington dans un instant. Et puis au moins 8565 personnes sont mortes sur les routes de la migration dans le monde en 2023, ce qui en fait l'année la plus meurtrière de la décennie. Nous y verrons un peu plus clair. Et puis Simone Veil, Josephine Baker et Marie Curie figureront sur les prochaines pièces françaises de 10, 20 et 50 centimes d'euros. Et puis au cours de cette émission, bien sûr, la chronique écologique tout d'abord, où nous parlerons d'un sabotage qui vise l'usine Tesla en Allemagne. Et puis avec la chronique économique, on s'intéressera à la France qui veut réguler l'ultra fast fashion. Et puis dans le reportage de la rédaction aujourd'hui, eh bien, nous vous proposerons un reportage comme nous, les bourdons et les chimpanzés peuvent transmettre leurs compétences. Ce sera à partir de 19h50. Soyez tous et tous les bienvenus dans le 19-20. La dernière rivale de Donald Trump pour l'investiture républicaine, Nikki Haley, a annoncé la suspension de sa campagne après sa défaite lors de nouvelles primaires. L'ex-président se retrouve donc seul pour défier Joe Biden en novembre, la 1337 reportage. Elle était la dernière adversaire de l'ancien président américain dans la course à l'investiture. Nikki Haley a annoncé mercredi 6 mars suspendre sa campagne. Donald Trump, grand favori des primaires républicaines en vue de la présidentielle américaine, a remporté les scrutins organisés dans 14 États mardi selon les résultats donnés par l'agence Associated Press. Une quinzaine d'États et un territoire étaient appelés à voter lors du traditionnel Super Tuesday pour désigner les futurs candidats des partis républicains et démocrates. Donald Trump compte désormais 995 voix de délégués contre 89 pour Nikki Haley, selon le décompte d'Associated Press à midi, heure de Paris. La répartition des délégués attribuée lors du Super Tuesday n'a pas été finalisée et se poursuit. La 1337 reportage. Nouveau tour de vis en vue, au moins 20 milliards d'euros d'économies seront nécessaires en 2025, soit près du double des 12 milliards envisagés jusqu'ici, a prévenu le ministre délégué aux comptes publics Thomas Cazenave. Simone Veil, Josephine Baker et Marie Curie figureront sur les prochaines pièces françaises de 10, 20 et 50 centimes d'euros, a révélé la Monnaie de Paris chargée de les frapper, mise en circulation prévue d'ici cet été. Vous écoutez la 1337 et vous avez bien raison, 19h02, on passe à l'actualité internationale. À présent, le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se tenir mercredi, une réunion en urgence sur l'escalade de violence en Haïti où un chef de gang a assuré qu'une guerre civile sanglante aurait lieu si le Premier ministre Ariel Henry ne démissionnait pas. Les bandes criminelles qui contrôlent la majorité de la capitale de Port-au-Prince ainsi que les routes menant au reste du territoire s'en prennent ces derniers jours à des sites stratégiques de ce pays pauvre des Caraïbes, académie de police, aéroport et plusieurs prisons d'où ont pu s'évader des milliers de détenus. Au moins 8565 personnes sont mortes sur les routes de la migration dans le monde en 2023, ce qui en fait l'année la plus meurtrière de la décennie, a révélé l'ONU. Plus d'un tiers de ces disparitions ont eu lieu en Méditerranée, la 1337 reportage. Près de 9000 personnes sont mortes sur les routes de la migration dans le monde en 2023, a affirmé mercredi 6 mars l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Ce qui en fait l'année la plus meurtrière de la décennie, précise cette agence de l'ONU. Le nombre des morts en 2023 représente une augmentation tragique de 20% par rapport à celui de 2022, ce qui souligne le besoin urgent d'agir pour éviter de nouvelles pertes de vie humaine, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Avec au moins 8565 morts en 2023, le nombre total ayant perdu la vie cette année-là dépasse le précédent record établi en 2016, lorsque 8084 migrants étaient décédés. La traversée de la Méditerranée reste la route de la plus meurtrière pour les migrants, mais au moins 3129 décès et disparitions enregistrés l'an dernier. L'OIM souligne que les voies migratoires sûres et légales restent peu nombreuses, ce qui pousse des centaines de milliers de personnes chaque année à tenter leur chance dans des conditions dangereuses. Un peu plus de la moitié des décès de l'année dernière sont dus à la noyade, 9% à des accidents de voiture, 7% à des actes de violence. La 1337 reportage. Le ministre des Finances britannique Jeremy Hunt a annoncé mercredi une baisse de cotisations sociales et la prolongation d'une baisse de taxes sur l'essence lors de sa présentation budgétaire de printemps, espérant doper la popularité des conservateurs en retard dans les sondages en vue des législatives. Et puis des milliers d'agriculteurs en colère, lançant des fumigènes et allumant des feux, ont manifesté mercredi à Varsovie contre les règles environnementales de l'Union européenne et les importations bon marché d'Ukraine. Plusieurs dizaines de personnes qui manifestaient mercredi contre l'enlèvement et la disparition en 2014 de 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa ont enfoncé une des portes du palais présidentiel à Mexico, selon les images de la chaîne Milenio. Un article est à retrouver sur notre site internet la1337.com. Retour en France, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, qui a rejeté mercredi le recours déposé contre l'État français par les opposants au projet de l'autoroute A69 Toulouse-Castres, qui protestait contre les méthodes employées par les forces de l'ordre pour les déloger des arbres où ils sont perchés. Et puis on finit avec un mot de sport. Le Colombien Santiago Brutago était ivre de bonheur mercredi du Mont Brouilly où il a remporté l'une des plus belles victoires de sa carrière lors de la quatrième étape du Paris-Nice qui a vu les favoris se neutraliser, gagner ici en France dans une aussi grande course. C'est extraordinaire. En plus, l'équipe s'impose aussi à Tirreno Adriatico aujourd'hui avec Phil Bahos. C'est un grand jour pour Brahira à savourer le grimpeur de Bogota, notamment. Vous écoutez la 1337 et vous avez bien raison, on passe à la météo.
La météo sur la 1337.
Arthur Bex.
Et pour votre météo, eh bien des nuages bas d'origine maritime se sont installés en cours de nuit sur la plaine du Languedoc-Roussillon. Côté température, de faibles gelées sont fréquentes sur une bonne moitié est du pays, de 0 à 4 degrés plus à l'ouest, autour de 5 à 7 degrés sur la façade atlantique, de 7 à 8 degrés sur les bords de la Méditerranée pour les minimales, de 9 à 11 degrés des frontières du nord-est, à 15 à 16 sur le littoral méditerranéen, de 17 à 20 au sud de la Garonne. Vous écoutez la 1337, on revient dans quelques instants.
Plus de 15 heures d'émission dans la semaine, le meilleur des hits toute la journée, des animateurs qui te ressemblent. C'est ça, la 1337.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot.
Oh,
19h24 sur la 13h37, l'heure de passer à la chronique écologique. Et comme je vous le présentais tout à l'heure, on parle aujourd'hui d'un sabotage qui vise l'usine Tesla en Allemagne. L'incendie d'un pylône d'une ligne à haute tension a conduit le 5 mars à l'arrêt de l'usine Tesla près de Berlin. Le sabotage a été revendiqué par un groupe antifasciste qui dénonce les méfaits écologistes et humains du groupe. Mardi 5 mars aux Aurores, le constructeur automobile Tesla a dû stopper toutes les lignes de production de sa Gigafactory, énorme entreprise située sur la commune de Grünheide, à 35 km au sud-est de Berlin. Vers 4h50, les services de sécurité de l'usine, qui emploie 12 500 salariés, ont découvert la cause de la rupture de courant qui a aussi affecté les communes environnantes. Un des pylônes de la ligne à haute tension qui alimente le site a été incendié. Au pied du pylône, il y avait une tente avec un message indiquant que des munitions de combat sont enfouies ici, ce qui s'est révélé être erroné. À la mi-journée, la police de Brandenburg et plusieurs médias ont reçu une lettre de revendication signée par le Vilanken Group, le groupe des volcans. Un groupuscule peu connu, catalogué à l'extrême gauche. « Nous avons saboté Tesla aujourd'hui », explique le texte, qui poursuit ainsi. « Ensemble, mettons Tesla à genoux. Salutations à tous ceux qui sont en fuite dans la clandestinité, dans les prisons et dans la résistance. Amour et force à tous les antifascistes. » Le même groupe a revendiqué avoir entre autres mis le feu à l'alimentation électrique du chantier de Tesla en 2021, à qui il reprochait de n'être ni verte, ni écologique, ni sociale. Aujourd'hui, son communiqué de revendication en allemand n'a pas changé de tonalité, précis et détaillé sur les méfaits écologiques du constructeur automobile et sur le monde qu'il propose. Le texte accuse Tesla de dévorer la terre, les ressources et les humains et de fournir en échange les SUV, machines tueuses et monster trucks. L'an dernier, le patron de Tesla, Elon Musk, qualifié de technofasciste par les activistes, a confirmé qu'il optait pour sa gigafactory allemande pour produire sa petite Tesla, un modèle à 25 000 euros, et non sur une usine mexicaine. Pour cela, l'entreprise compte accroître la surface de son usine d'au moins 120 hectares, en plus des 300 hectares déjà occupés. À terme, la production annuelle doit passer de 500 000 véhicules à 1 million. Dans cette région de bois et de lacs, en partie classée zone naturelle protégée, une telle extension industrielle représente un danger important pour les ressources d'eau potable du Land. La consommation d'eau de Tesla, 1,8 million de mètres cubes par an, ainsi que les rejets industriels, sont déjà considérés comme excessifs par plusieurs ONG environnementales, ainsi que par les habitants des lieux. Dans un référendum dont le résultat a été publié le 21 février, 3499 habitants de Grünheide se sont prononcés contre l'extension de l'usine. Seulement 1882 y étaient favorables. La participation était alors de 70%. Ce référendum n'est pas juridiquement contraignant et Stephen Stork, porte-parole du mouvement qui en est à l'origine, doute qu'il fasse bouger Tesla et ses appuis politiques. Depuis jeudi dernier, une centaine d'opposants à Tesla, membres des initiatives Tesla Stoppen et Robin Wood, en français Robin des Bois, occupent en effet pacifiquement une parcelle de forêt à l'est de l'usine pour empêcher l'extension prévue. Voilà donc pour cette chronique écologique qui est à retrouver en podcast sur notre site internet la1337.com. I'm
suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux. À chacun de mes sourires.
Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se moquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout.
Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux.
Regarde le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux.
Entre les rires et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure.
Faut profiter de sa jeunesse, sans jamais détruire son futur.
On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre?
Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux.
Regarde le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. La nuit tout seul je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner.
Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer.
Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles. Mais on s'imagine une vie facile, puis qu'on vivra vieux. Regarde le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. Ma main dans tes cheveux.
took away your fear. Hey,
Tolkien et l'imaginaire médiéval. Une production originale, La 1337. Réalisation et présentation, Arthur Bex.
J'ai rencontré l'œuvre de Tolkien quand j'avais autour des 12 ans, je crois. J'avais lu Le Hobbit à 6 ou 7. Mais peut-être que le premier chapitre, puisque je ne me souviens pas du reste. Mais Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu autour de 12 ans. Et comme le premier tome n'était jamais disponible à la bibliothèque, j'ai lu le deuxième, ensuite le troisième, et enfin le premier. Et je me suis dit, mais cette histoire, elle n'est pas terrible, puisque c'est un peu décousu. Donc, toute première lecture catastrophique. Mais je me suis rattrapé par la suite.
Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans Tolkien, l'imaginaire médiéval. Dans le premier épisode, je vous présentais le père de la fantasy, Tolkien, son œuvre et ses réalisations. Mais sa vie, elle a inspiré un dessinateur canadien natif de Vancouver, John O, qui a par ailleurs participé à l'élaboration de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Je vous en parlais dans le premier épisode. Une exposition lui est d'ailleurs dédié pour retracer autour de ses 250 dessins la vie de Tolkien et l'imaginaire médiéval. C'est son histoire que je vais vous conter dans ce deuxième épisode. Tolkien et l'imaginaire médiéval, deuxième épisode. John Ho, la fantasy en images. Tout commence à Strasbourg. À 20 ans, en 1977, ce natif de Vancouver découvre la vieille Europe par l'entremise de Strasbourg et sa cathédrale. C'est une révélation dans le Nouveau Monde. Ses visions d'un passé lointain relevaient plus de l'imaginaire que d'une réalité ancienne inscrite dans les villes, comme c'est le cas sur le vieux continent. John O trouve une histoire gravée dans la pierre et sur de lourdes armures. Des études à l'école des arts décoratifs de Strasbourg, c'est décidé, il restera en Europe.
Enfin, je suis arrivé en Europe la toute première fois autour de 19 ans. Tout Canadien qui se respecte fait un mois en Europe, si on peut. Et ce mois s'est transformé en une année. Cette première année s'est transformée en maintenant 40 ans. Donc j'ai fait une toute première année dans un collège américain à Strasbourg. Ensuite, j'ai fait 3 ans à les Arts Déco. Et depuis, je travaille comme indépendant, mais ma présence en Europe, je crois, est due au fait que je trouve beaucoup plus nourrissant que mon pays d'origine. Vancouver, c'est un coin très très chouette, mais c'est quand même très neuf, très moderne. Et j'ai très très envie de pouvoir toucher du bout des doigts ou fouler sous les pieds un peu toute la densité qu'apporte l'histoire. et un peu un immigré à l'envers, finalement.
J.R.R. Tolkien fut lui-même un dessinateur, peintre et aquarelliste. Il dépeint dans ses œuvres la plupart du temps, non pas l'environnement avec force de description et détail, mais les émotions des personnages devant une situation ou la découverte d'un nouveau lieu, telle la majestueuse capitale du Gondor, Minas Tirith. De quoi faire chauffer la boîte de l'imaginaire. Cet imaginaire est particulièrement bien retranscrit dans l'exposition de 1000 mètres carrés au couvent de Landerneau, au fond Hélène et Édouard Leclerc de Landerneau. À cette occasion, une exposition est organisée, je vous le présentais en début du podcast, dans un espace de près de 1000 mètres carrés s'exposent des originaux du Canadien dont une grande partie provient de la collection de l'artiste pour la trilogie du Seigneur des Anneaux qui raconte l'avènement des hommes 10 ans plus tard pour celle du Hobbit, mais aussi des œuvres plus personnelles et des inédits qui ont servi à la série tirée de l'univers de Tolkien, les Anneaux de Pouvoir. Amazon a dit oui tout de suite, rapporte Jean-Jacques Launier. Pour en définir la direction artistique, Jono a réalisé plus de 1500 dessins. Quand l'exposition de la BNF dédiée à Tolkien de 2019 se concentrait sur les manuscrits et les sources de l'écrivain, celle-ci a été pensée pour toucher un large public. La plupart des jeunes ont connu Tolkien à travers le film et on a envie que ce soit des portes d'entrée comme peut-être la série, les jeux vidéo tirés de son univers, pour ensuite poursuivre l'aventure Tolkien si le désir se réveille, décrit le co-commissaire. En découvrant l'exposition, la mise en espace peut déconcerter. L'approche n'est ni chronologique ni didactique, mais bien thématique et sans continuité. Ce n'est pas une expo sur Tolkien, mais sur les traces de l'auteur anglais et de l'imaginaire médiéval, explique la directrice générale du musée Art ludique et co-commissaire Diane Leonier. Dans cette optique, on souhaitait que le visiteur profite d'une liberté de parcours, de s'attacher à des espaces distincts où les œuvres sont mélangées, ajoute-t-elle, sortir et entrer dans un monde à chaque fois. Pour faire simple, pas de circuit type, mais la nature entre merveilleux et questions écologiques. Les cartes, les contes et légendes, les adaptations cinéma, les anneaux de pouvoir, des salles qui unissent l'univers de Tolkien avec des dessins plus personnels de l'artiste. Dans la salle des dragons, Smaug joue les coudes avec les dragons chinois, des Drakkar ou Fafnir tués par Sleggfrid dans le cycle du Sigurd et de la mythologie scandinave. Chaque espace est séparé par de larges panneaux, peints de plusieurs mètres de haut, rendant hommage à la finesse du trait, au travail sur la perspective ou la lumière représentant certains des plus impressionnants dessins de John Ho. Au bout de ce chemin tronc, où chaque ouverture est une branche de l'arbre, et porte de la grande salle des Muduseld, demeure de Théoden du Rohan. Le but est d'apporter de la contextualisation, analyse Jean-Jacques Launier, car oui, une des principales ambitions de l'exposition est de mettre en lumière les sources de l'auteur du Hobbit. Un pied dans le réel et un dans l'imaginaire, résume ce dernier. Cet effet de réel passe par la création de cartes, de familles, d'arbres généalogiques, de langues. D'ailleurs, J.R.R. Tolkien est formel. Dans le début du Seigneur des Anneaux, il s'agit d'un texte issu d'un manuscrit authentique qui nous est parvenu et qui raconte le monde il y a des milliers d'années. Il reprend ici une tradition ancienne que l'on retrouve par exemple dans le Beowulf, qui fait toujours remonter le texte d'un précédent. La réalité, c'est l'emprunt des sources historiques. La notion de terre du milieu, qui provient d'un poème du 7e siècle, est de l'okoémène grec, l'anneau de pouvoir, autant inspiré de l'anneau de Gyges de Platon que de Nibelungen, tiré d'une épopée médiévale du 13e siècle, qui inspirera Wagner plus tard. Et plus généralement, une influence de la légende arthurienne, les Eddas, de la Volsunga saga, qui en est issue ou du Kalevala au XIXe siècle. Récits largement oraux pour les plus anciens avant la démocratisation de l'imprimerie au XVIIe siècle. Enfin, pour construire son monde, Tolkien a puisé dans le mouvement pré-raphaélite. Majoritairement inspiré de l'imaginaire du Moyen-Âge où le courant Art and Craft, porté par les fascinants William Morris ou John Ruskin, réformateurs dans les domaines de l'architecture, de l'art décoratif, de la peinture et de la sculpture, des pièces historiques provenant du musée de Cluny, du Louvre, sont notamment présentes pour l'exposition. Selon John Howe, si on explore les motivations de Tolkien, on aperçoit qu'il n'avait pas d'agenda caché. Ce n'est pas un propagandiste ou un prosélyte quelconque. Il est saisi par la richesse de ses matières, ses sources, lui donnant envie de raconter à son tour. C'est comme si ça débordait chez lui sous forme d'histoire. Il y a deux visages de Tolkien, le professeur érudit de littérature anglaise à Oxford, plongé dans les textes anciens du monde germanique et scandinave et linguistique, et philologue, vous vous en souvenez, nous en avions parlé dans le premier épisode. Et dont certains travaux restent des préférences et le créateur d'un univers extraordinaire. Ses collègues, qui étaient des universitaires très sérieux, trouvaient ses activités annexes très drôles, légères, non sans condescendance, continue le Canadien. Avant de rappeler, puis de questionner, il a touché quelque chose de presque universel. Je crois qu'il n'y a pas un pays où il y a des enthousiastes de Tolkien. Il y a quelque chose de presque mystérieux dans cette résonance. Qu'est-ce qu'il y a dans son œuvre qui nous saisit si profondément? La vitalité toujours renouvelée, les mythes et leur symbolique. Pour le dessinateur Tolkien, enrobe son matériau d'un récit qui nous offre une place au premier rang, ce que ne font pas les textes anciens devenus plus difficiles à la lecture. Si on souligne les préoccupations et les thèmes chez Tolkien, elles sont plus que jamais d'actualité. L'amitié, quelle réaction avoir face à des situations qui nous dépassent, ou la tension entre l'individu et le groupe. Des sujets poignants, affirme-t-il. Tolkien et l'imaginaire médiéval, deuxième épisode, John Ho, la fantaisie en images. Outre ces sujets poignants, c'est aussi un rapport à la nature face à la folle industrie représentée par Saruman et Isengard, à la mémoire et paradoxalement par le merveilleux, le conte faire à devenir le réel. Pour Jean-Jacques Launier, face à l'industrialisation qu'il détestait, l'anglais né en Afrique du Sud en appelait au retour du travail de l'artisan, du fabricant et de l'artiste ensemble. Là encore, le fascinant William Morris n'est pas loin. Les œuvres principales de Tolkien, John Ho les a lues. 3 ou 4 fois, tout à fait suffisant pour dresser un constat. Dans le fantastique, il y a un pré-Tolkien et un post-Tolkien. Il est incontournable, que l'on aime ou pas. Tout seul, il a changé l'approche de la fantasy. C'est un univers où tout me plaît, ce qui est très rare chez un auteur. Normalement, avec un auteur, il y a ce qu'on trouve formidable et le reste, car ce que vous avez vécu ne correspond pas totalement à son expérience. Là, il y a concordance que je considère absolue. Je me sens à l'aise en territoire non pas familier, mais que je crois et pense comprendre. Du néo-gothique au numérique, entre ses premiers dessins, la trilogie du début des années 2000, au Hobbit jusqu'aux Anneaux de Pouvoir, ont produit plus vite et plus, mais le fond reste le même selon le directeur artistique de chacun de ses projets sur plus de 20 ans. Pour Diane Launier, derrière le pinceau numérique, l'artiste est resté.
Les outils sont là pour qu'on s'en serve finalement, ils ne sont pas là pour nous maîtriser. Et si on se sent mal à l'aise par rapport aux outils qu'on utilise, c'est qu'on ne les maîtrise pas. Donc on ne devrait pas les utiliser. Puis finalement, le numérique est un moyen comme un autre qui a beaucoup de liberté, beaucoup d'avantages, mais aussi ses propres contraintes. Donc il faut apprendre tout ça. Mais c'est même à mon âge avancé, je vous jure que c'est possible. Comment dire, il faut faire. Et puis après, on apprend. C'est clair qu'on n'utilise pas des millions de possibilités qu'offre Photoshop, mais tout repose sur le dessin quand même. Donc on pourrait peut-être faire la même. Enfin, on a fait beaucoup de crayons aussi. Donc le crayon sur papier reste quand même un moyen de communication extrêmement précis, rapide. Et ensuite Photoshop, comme on devait élaborer un univers réaliste, Photoshop est tout indiqué. Je ne me suis pas encore mis au 3D, mais je vais.
Avec cette exposition, le co-commissaire Jean-Jacques Launier est formel. C'est le véritable art contemporain d'aujourd'hui qui permet de transmettre aux générations futures ce que l'on est, de quoi on a peur, à quoi on rêve. Et de continuer, les artistes, les arts ludiques sont minorés, alors qu'ils fédèrent les gens. C'est ce qui va rester pour nous divertir, ils créent les images les plus marquantes de notre époque. Cette notion d'art ludique a été initiée par le couple Diane et Jean-Jacques Launier dès le lancement de leur première galerie, une des premières parisiennes à proposer à la vente des planches de bandes dessinées. Depuis les peintures rupestres, des hommes de caverne, les hiéroglyphes, la tapisserie de Bayeux, les rouleaux japonais, à présent le concept art de cinéma, l'animation, les jeux vidéo, ces artistes façonnent les œuvres les plus iconiques de leur siècle. On veut mettre en avant ces acteurs des industries créatives et d'assimiler ces équipes artistiques aux ateliers de la Renaissance. Après avoir lancé leur galerie en 2014, les deux passionnés du figuratif-narratif créent le musée d'art ludique à la Cité de la Mode de la capitale. Jeux vidéo, bandes dessinées, dessins, animations, mangas et des séries. Une exposition Disney en 2016 qui rappellera entre autres que le studio proposa le premier film avec un son synchronisé, alliage de l'artistique et du technologique, résume Jean-Jacques Launier, mais aussi comment on étudia les faons jusqu'à en amener sur place afin de réussir la scène sur la glace notamment. Une impressionnante exposition à découvrir pour célébrer les 10 ans du fonds Hélène et Édouard Leclerc installé dans le premier magasin Edmond Leclerc à Landerneau, dans cette région de légende et ce département où la terre se finit.
Ah, je ne sais pas, mais on a beaucoup de choses à faire encore. Hein. J'ai quelques projets que j'aimerais bien approfondir, surtout dans l'édition. Et puis on verra, pourquoi pas du cinéma. On ne sait pas. C'est un peu l'intérêt d'un métier d'indépendant, c'est qu'on ne sait pas très bien ce qu'on sera en train de faire dans un mois ou deux ou dans trois mois. Donc, on espère juste trouver un peu de travail.
Tolkien et l'imaginaire médiéval. Un podcast original, La 1337. Réalisation, Arthur Bex. Coordination, Guillaume Van Ketz. Documentation, Enzo Morel. Assistant de production, montage et mixage, Jérémy Verneil pour La 1337. Extrait des interviews, publié par Daily Movies et la librairie Le Mola.